Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Quel est l'impact des conflits armés sur l'environnement? C'est le thème que nous abordons à présent avec le professeur Nicolas Chokou, expert en environnement. Professeur, et bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir.
Oui, c'est également un plaisir de vous retrouver encore dans ces studios pour échanger sur ces thèmes. Alors, dites-nous, professeur, quel est l'impact aujourd'hui? C'est comme la RDC. C'est un pays qui est en guerre dans la partie est. Alors, quel est l'impact d'un conflit armé sur l'environnement? Qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence?
Ok, et les impacts des conflits armés sont énormes. On les classe souvent en deux, parce qu'il y a les conséquences directes liées au conflit armé et les conséquences indirectes liées au conflit armé. Et avant de vous parler de ces conséquences, permettez-moi de vous parler des typologies de ces impacts qui existent. Nous avons les impacts avant les conflits, parce que pour qu'il y ait conflit, c'est-à-dire que les belligérants pensent au conflit, qu'ils veulent attaquer un pays, mais quand ils attaquent, il y a les impacts avant les conflits, et surtout que quand le conflit veut commencer, premier impact, il y a déplacement de la population. Et c'est quand la population se déplace, ça a toujours la pression sur la forêt. Il y a une certaine manipulation sur les écosystèmes. Il y a une pression sur les ressources naturelles. En ce qui concerne les impacts avant les conflits. Mais pendant les hostilités, quand il y a vraiment conflit, il y a surtout ce qu'on déplore, l'effondrement de la gouvernance environnementale. Souvent, la gouvernance environnementale prend beaucoup de temps pour y installer, mais quand il y a conflit, on détruit facilement. Quand on a installé, on a mis sur place des parcs qui a coûté beaucoup d'argent, mais quand il y a conflit armé, ça effondre facilement à la seconde des choses ou à la minute. Il y a les impacts qui est post-conflit, mais après le conflit, il est important de faire ce qu'on appelle la réinstallation de la population, aller vers la reconstruction. Tout ça, ce sont des conséquences qu'on peut trouver sur du point de vue de la typologie. Mais j'ai parlé des conséquences de conflits armés, parce que des conséquences directes, c'est directement qu'est-ce qu'il y a. Mais comme vous aurez à les remarquer, vous venez de les redire, quand il y a agression, comme il y a des différentes agressions en République démocratique du Congo, et on vous agresse, mais les Congolais veulent contrecarrer, ou bien ils veulent chercher à récupérer leur espace. Mais là, qu'est-ce qu'il faut? On affaiblit souvent la population par les rebelles. Et comment on affaiblit? Il y a le phénomène de génocide. Alors, quand il y a massacre, et surtout quand on creuse les fosses communes pour mettre les cadavres, ça c'est un problème qu'il y a sur le sol. Et puis, autre problème qu'on peut trouver, c'est la spoliation des biens. Et comme vous le savez, dès qu'il y a conflit armé, il y a les belligérants qui ont tendance de prendre par force les histoires de la population. Et puis pour attaquer l'ennemi, il faut brûler la forêt, souvent parce que vous connaissez que quand on est souvent les écosystèmes, la forêt joue l'écran pour voir les autres. Vous brûlez des étendues énormes de la forêt.
L'effet de brousse. Hein.
Vous, effectivement, on perturbe l'écosystème, on perturbe les phénomènes sur les changements climatiques. Et quand la population se déplace, ils vont s'installer sur des camps de réfugiés. Et dans les camps de réfugiés, qu'est-ce que nous nous manquons pas à trouver. Nous trouvons la famine, nous trouvons les gens qui meurent par manque de médicaments, les gens qui vivent en même des sols, les gens qui mangent des racines.
Il faut couper les arbres.
Et des gens qui vont couper les arbres, comme vous dites, pour carboniser les bois, en fait, d'usage énergétique. Mm-hmm. Alors, il y a la destruction sur les plans économiques. Il y a les problèmes climatiques qui se posent. En fait, ça, ce sont des problèmes qui existent, mais du point de vue impact direct. Du point de vue impact indirect, ce sont les impacts qui viennent qui sont prévisibles pendant le conflit. Vous pensez, par exemple, il y a pendant la période des conflits, j'ai parlé de l'effondrement de la gouvernance environnementale. Quand pendant le conflit, il y a les phénomènes de crise qui s'installent dans un pays, la crise par rapport aux ressources naturelles, la crise par rapport aux ressources naturelles, la crise par rapport à la restauration, différentes crises. Mais qu'est-ce qui est important dans ces phénomènes? Souvent, les belligérants oublient souvent les problèmes environnementaux pendant les guerres. Et souvent, parce que la situation...
On tue les animaux, les okapis.
Je suis en train d'en arriver. Il n'y a pas que la destruction des animaux. Mmh. Il y a la perte des vies humaines, qui est tout à fait important, parce que suivant les lois internationales liées à la guerre, parce qu'il y a les instruments, il n'est pas permis que les armes puissent faire déplacer la population. Mais qu'est-ce que nous arrivons à voir dans le monde, que pendant les conflits, surtout en RDC ou ailleurs, il y a déplacement de la population. Et il est interdit de tuer les êtres vivants. Nous voyons beaucoup de phénomènes de braconnage, qu'on est en train de tuer les éléphants, on est en train de tuer des gorilles, des gorilles des montagnes.
C'est devenu tout un business.
Mais surtout avec les éléphants qu'on trouve à la République démocratique du Congo, on est en train en fait de décimer les espèces végétales et animales. À un moment donné, il y aura rareté ou presque absence de ces animaux.
D'où les okapis.
Les okapis qui sont en fait les animaux presque rares qu'on peut retrouver qu'à la République démocratique du Congo, on est en train de les décimer. En fait, ce sont les impacts imprévisibles de la guerre. Et les belligérants n'ont pas le droit. Les gens qui sont en conflit armé, ils n'ont pas le droit. Aucun instrument juridique international les autorise de détruire les éléments de la nature. Mais on trouve effectivement qu'il y a beaucoup de conséquences. Du point de vue des sols, quand on est en train d'attaquer ou bien on met les mines antipersonnelles, la conséquence c'est quoi? L'étendue où on a mis des mines antipersonnelles, c'est devenu un culte pour la végétation. Cet espace-là, on ne peut plus cultiver parce que si une personne cultive, la mine peut sauter sur elle. Et vous trouverez dans un endroit par rapport à l'eau, là où on jette des cadavres, et l'eau devient impropre à la consommation. Parce que le corps humain qui se décompose peut engendrer d'autres maladies. Je parle aussi des feux de bouse où pour attaquer il faut brûler. L'endroit où on est en train de brûler, dès qu'il pleut, ça signifie que le sol qui est nu se sujette à des érosions. Mm-hmm. Et puis là où il y a les érosions, là où il y a des mines antipersonnelles, on ne peut plus faire le culture. Par rapport aussi aux conséquences environnementales, je parle du sol, je parle de l'eau, je peux parler aussi, je parlais de la population, mais du point de vue scolaire, qu'est-ce que nous ne remarquons pas?
On y arrive, il est temps de dire à nos auditeurs que vous pouvez participer à cette émission. Nous parlons des impacts des conflits armés sur l'environnement. Vous avez des questions, des préoccupations ou vous avez des témoignages, appelez-nous, n'attendez pas les dernières minutes, appelez-nous au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Vous pouvez aussi nous faire parvenir des SMS au 081 711 50 01.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Alors, nous parlons de l'impact des conflits armés sur l'environnement. Professeur Nicolas, parlons de l'impact au niveau des eaux, des cours d'eau. Qu'est-ce qui arrive le plus souvent?
Bon, qu'est-ce qui arrive? L'eau reçoit les êtres vivants, les hommes qui meurent, et les hommes qui meurent, dont les cadavres, vous les retrouvez à la surface de l'eau, et les cadavres, les corps qui s'éclatent, qui se décomposent. Vous savez que nous sommes dans une chaîne trophique, les poissons peuvent consommer les cadavres, et quelqu'un qui consomme ce poisson peut attraper la maladie. Donc, sur les eaux, qu'est-ce qu'on peut en train de trouver pendant la guerre? Les hippopotames. Pendant la guerre, vous voyez les hippopotames qu'on est en train de tirer. Les hippopotames n'ont rien à voir avec le conflit. Les poissons n'ont rien à voir avec le conflit. Oui. Mais les belligérants ne savent pas qu'ils sont en train, en fait, de détruire même les habitats sur lesquels ils doivent vivre. Parce que pour passer, pour vivre, ils ont besoin de manger. Et pour manger, ils doivent avoir les éléments des ressources naturelles. Et donc, ils sont en train de les détruire d'une façon incontrôlée. Parce que quand ils sont en plein conflit, là où ils passent, ils détruisent, ils brûlent, et ils coupent, ils tuent, et même les animaux, ils ne les consomment même pas, ils les laissent, braconnage, les animaux se décomposent, une perte. Et je pouvais aussi aller du point de vue économique. Nous arrivons à avoir, j'ai parlé d'abord du point de vue scolaire, qu'est-ce qu'on arrive à avoir par rapport à la République démocratique du Congo, les phénomènes de la guerre, toutes les populations qui se retrouvent à l'est du pays, il y a déstabilisation des systèmes éducatifs, nous trouvons des enfants qui sont retardés sur le plan scolaire, même sur le plan académique, mais certaines conséquences existent aussi, même le plan économique par rapport au conflit.
Tout ça c'est lié à l'environnement.
Tout ça c'est lié à l'environnement, parce que l'environnement, c'est un tout. On ne peut pas parler de l'environnement sans parler de l'élément central de l'environnement qui est l'homme. Alors, quand l'homme n'a pas étudié, c'est les problèmes sociaux qui en arrivent. Mmh. Donc, ça a des conséquences.
Alors, on va poursuivre tout à l'heure. Le temps d'accueillir Albert Mouananga. Il nous appelle de Kananga. Bonjour, Albert.
Bonjour, M. Dick.
On vous écoute.
Je pense que je n'ai pas la passion. Au sujet du tour.
Oui.
Oui. Je pose à l'invité une question. À quoi est-ce que le conflit armé doit être? Parce que nous voyons ici qu'en
RDC. Albert, on ne vous écoute pas très très bien. Vous sortez entrecoupé. Veuillez vous déplacer un tout petit peu. Ça peut améliorer la qualité de la liaison téléphonique. Veuillez vous déplacer un tout petit peu, Albert. Et nous invitons les autres auditeurs qui veulent participer. Appelez-nous au 081 890 63 94. On vous écoute, Albert.
Oui, je disais ceci. À quoi le conflit en mer est en RDC? Parce que nous voyons au Congo, c'est grave. Les conflits armés sont toujours au profit des autres personnes. Vraiment, c'est ça. Je pense à la troisième ou à la deuxième question comme ça.
Albert, désolé, on ne saisit pas très très bien votre question. Désolé, la ligne n'est pas très très bonne. Veuillez nous rappeler peut-être plus tard. Alors, professeur, nous poursuivons cet entretien. Les conflits armés ont plusieurs impacts sur l'environnement. Mais est-ce que c'est possible, lorsqu'il y a un conflit, de protéger l'environnement? C'est difficile. Il y aura toujours des conséquences.
Mais c'est pourquoi il faut former les belligérants. Il faut former ceux qui entrent en conflit armé.
Au respect de l'environnement.
Il faut les sensibiliser. Il faut les conscientiser. Et aussi, ils doivent savoir qu'ils sont éléments de l'environnement. Et l'environnement, dès qu'ils détruisent, ils détruisent le développement durable. Mais ça signifie que quand vous voulez vous mettre en conflit, vous devez déjà, je crois qu'ils savent qu'en partant en conflit, ils ne doivent pas violer les personnes. En partant en conflit, ils ne doivent pas détruire les maisons des gens. En partant en conflit, il ne faut pas faire de telle sorte qu'il y ait un déplacement de la population. Et surtout, ne pas faire la pression sur la forêt. Ils savent. Moi, je pense, on les informe. S'ils ne sont pas informés, il est important de les conscientiser, de savoir que l'arbre n'a rien à voir avec leur conflit. Il est détruit pour rien. Un éléphant, il n'a rien à voir avec le conflit, avec ce qu'il cherche. L'éléphant doit vivre. C'est-à-dire que, et ils savent, et il faut les conscientiser pour éviter. C'est la conscientisation. Pendant le conflit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut médiatiser. C'est le rôle des journalistes de médiatiser, d'informer. Parce que du moment où on parle des bilans de la guerre, et du moment où ils passent les informations, les belligérants, il faut savoir les informer de ne pas avoir la pression sur
les... Est-ce qu'on a une idée sur les dégâts causés sur l'environnement lors de conflits en RDC, par exemple sur les espèces rares, tout ça? Est-ce qu'il y a des statistiques?
Ah oui, ce que je suis en train de vous dire par rapport aux statistiques, à la République démocratique du Congo, il n'y a pas encore une étude fiable et systématique par rapport à des bilans sur le plan de la population qui sont décédées, la population des animaux, mais il y a quelques estimations. Et qu'est-ce que vous pouvez remarquer par exemple par rapport à des parcs nationaux? On peut trouver des parcs qui avaient par exemple 5 à 10 000 gorilles. On trouve la population de 1 000 à 2 000 gorilles, ça signifie qu'il y a diminution. Et quand vous regardez dans les espèces des bambous, il y a par exemple un endroit où on a brûlé plus de 100 km carrés de bambous. Ça signifie qu'il y a beaucoup d'êtres vivants qui se sont déplacés et qui étaient péris. C'est-à-dire que les bilans existent, mais les bilans qu'on trouve, ce sont des bilans estimatifs en République démocratique du Congo. D'où la nécessité de réaliser des grandes études sur des enjeux environnementaux des conflits armés. Et il y a une structure appelé projet d'évaluation environnementale des conflits armés en République démocratique du Congo, qui est en train de réaliser les études sur les enjeux environnementaux et il est en train de faire certains bilans. Mais vous avez à l'ICCN aussi, l'ICCN est en train de faire la comparaison entre les animaux qui avaient et les espèces animales qui avaient avant le conflit et après le conflit. Mais il y a toujours les écarts tout à fait grands.
Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a des espèces qui ont complètement disparu? Suite au conflit dans notre pays.
Il peut y avoir certaines espèces qui sont totalement disparues, mais parce que les études concrètes ne sont pas faites. Il est difficile de vous dire quelles sont les espèces.
Alors, quelles sont les espèces menacées aujourd'hui?
Ok, parlant des espèces menacées de disparition, c'est par exemple l'animal qui porte le nom de votre chaîne. L'okapi est en voie de disparition. Pendant la guerre, il y a même certains okapis qui sont en volatilisation. Mais il y a les éléphants qu'on est en train, qui passaient en troupeau, mais on les trouve passer parce qu'on les compte par la forme des traces. Vous pouvez, au lieu de voir 100 troupeaux, mais vous voyez des traces d'animaux. Ça signifie que les éléphants commencent à disparaître. C'est à l'est du pays, où on trouve dans des parcs, où on trouve le gorille des montagnes, on trouve le gorille des montagnes. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans des parcs comme de Maïko, du parc de Garamba, vous êtes en train de regarder que les gorilles sont presque inexistants. C'est aussi un animal aujourd'hui avant des disparitions aujourd'hui dans notre pays.
Voilà, donc c'est... Nous parlons de l'impact des conflits armés sur l'environnement. Des questions de préoccupation, appelez-nous au 081-890-6394. Vous pouvez également nous envoyer vos SMS au 081-711-5001. Alors, vous avez également parlé de l'impact sur le sol. Vous pouvez nous en dire davantage?
Oui, je parlais des impacts liés au sol, les impacts environnementaux des conflits armés sur le sol. Je disais, vous savez, le sol, c'est un endroit important où on peut faire les cultures. Mais qu'est-ce que nous remarquons pendant la guerre? On brûle la végétation. En le brûlant, on laisse le sol nu. Et le sol qui est nu, il n'est plus utile pour la culture. Le sol qui est nu est un sol sujet à la végétation, à l'érosion. Et par rapport au sol, le fait de mettre les mines antipersonnelles, et cet endroit-là devient impropre à faire de culture. Et cet endroit-là devient n'est plus utile pour la croissance des espèces du point de vue des sols. Quand on parle de sol, on associe souvent le sol et surtout avec l'eau. De la même manière, je disais, les cadavres sont jetés dans l'eau. On peut les retrouver à la surface comme ils peuvent aller en profondeur, ça décompose, ça se décompose des cadavres, et les gens peuvent boire cette eau et avec la maladie des messales qui s'en suivent, et ça peut engendrer encore
d'autres problèmes.
Mort d'homme.
Christian Gabou nous appelle de Kpandroma, dans la province orientale. Bonjour, Christian.
Bonjour, j'ai dit qu'en chaman. Bonjour, Alévité.
Bonjour.
On vous écoute.
Alévité, à partir de certaines informations que nous avons reçues, certains témoignages, on nous dit que pendant une longue période de conflits armés dans un lieu quelconque, cela diminue la production de certains produits agricoles. Comment cela se passe?
C'est vrai.
Diminution des produits agricoles. Bien. Rachel Ndjounjou, vous êtes à Isiro. Bonjour.
Oui,
on vous écoute.
Oui, je voudrais seulement demander.
Oui, on vous écoute.
Allô?
Oui, Rachel, allez-y, parlez un peu plus fort, on vous écoute.
Oui, je suis en train de demander à l'invité, et qu'est-ce qu'ils sont en train de proposer pour trouver une solution par rapport à ça?
Bien, merci. Professeur Nicolas.
Bon, il est effectivement vrai. Quand il y a conflit armé, il y a diminution de la production. Parce que, un, les endroits où il y a conflit armé, les gens ne produisent pas. Ça signifie que quand vous ne produisez pas, après un certain mois, vous ne pouvez pas trouver les récoltes. Vous ne pouvez pas trouver une certaine production. Mmh. Ça, c'est un. Deux, que j'étais en train de dire, l'endroit où il y a eu conflit armé, et surtout qu'ici, cet espace-là, on a mis des mines antipersonnelles. Ça signifie que la population locale ne peut plus revenir dans ces lieux pour venir cultiver. À ce moment-là, cet espace devient impropre à la culture. Et en plus, il faut le savoir que si on a brûlé la forêt et que la forêt, après l'eau, il y a une lessivage, ça signifie que le pouvoir de fertilité du sol est parti, dont la production devient davantage faible il s'agit de la production végétale. Et du point de vue production animale, ça signifie qu'il y a les animaux pendant la guerre qui ont migré, parce que quand vous brûlez un grand espace, vous ne trouverez pas les êtres vivants là-bas. Ils vont migrer ailleurs. Pour revenir, il faut qu'il y ait la végétation puisse croître, ou il faut qu'il y ait atteindre d'un certain qu'on appelle climax, l'équilibre écoclimatique, pour qu'ils reviennent, ils trouvent encore la nourriture. Donc ça dit que même les arbres qui poussent et qui ne poussent plus bien à cause de ces impacts, il y a beaucoup de conséquences qui font que la productivité devient tout à fait faible. Mais par rapport à la dame, quelle solution faudra-t-il faire? La solution, il faut que les belligérants laissent le conflit armé. Le conflit armé n'est pas une bonne solution partout dans le monde. Et surtout, le conflit armé, ça a une conséquence. Ils sont en train de lutter à la recherche de leur pouvoir. Mais la conséquence, c'est les êtres vivants qui n'ont rien à voir à ça, surtout les innocents, les êtres vivants, comme les hommes, comme les femmes, ou bien les herbes, qui sont innocents.
Les arbres.
Les arbres, les animaux, qui sont en fait, qui n'ont rien à voir avec leur conflit, et qui ne veulent même pas intervenir à leur conflit, qui sont en train d'en pâtir. Ils doivent cesser, mais ils peuvent recourir à la voie de la négociation, et puis c'est très important, la voie de la négociation, pour éviter mordant, parce que nous,
si je veux... Et on a appris qu'il y a même des groupes armés qui sont installés dans des parcs et qui font les braconnages.
Mais oui, même parce que
c'est devenu une grande activité.
Parce que la République démocratique du Congo est tout à fait affaiblie, surtout à l'Est. Qu'est-ce qui se passe? Les groupes armés, les rebelles, ils sont dans des parcs, ils sont dans des réserves. Et ce sont leurs sources pour eux, pour avoir de l'argent.
Pour avoir de l'argent.
Il faut tuer
les éléphants.
Il faut tuer les animaux. Faut exploiter les ressources minières. Il faut aller dans les réserves. Et ils vendent. Mais cet argent n'entre pas dans les trésors. Ça entre dans leurs poches pour favoriser leur guerre. Alors, quelle est la solution? Il faut abandonner.
Comme vous avez dit tout à l'heure, l'éléphant est aujourd'hui une espèce menacée dans notre pays.
Et parmi les espèces menacées à la République démocratique du Congo, et il y a le rhinocéros blanc qui faisait la fierté de notre pays, qui est en train de devenir parmi les animaux menacés. Le parc de Garamba, il y avait vers 1938, on trouvait beaucoup de rhinocéros. Il n'existait presque plus. Mais quand à Kahuzi-Biega, il y avait beaucoup beaucoup de gorilles des plaines qu'on pouvait le voir, mais aujourd'hui il n'y a plus. Mais quand vous arrivez dans le parc de Virunga, c'était le siège des gorilles des montagnes, mais on trouve aujourd'hui en forme de traces. Alors à Kundelungu, c'est la même chose, mais il n'y a pas que ça. Dans les réserves de Tana, de Tanya à l'est, le théâtre, et en plus de cela, dans les parcs même, on trouve le phénomène de braconnage, des éléphants qu'on est en train de prendre l'ivoire pour aller
vendre
au profit de la guerre. Ce n'est même pas au profit de l'économie du pays, c'est le profit de la guerre et de leur poche. C'est ce qui est encore malheureux. Et vous faites tuer les gens, vous faites détruire les écosystèmes, vous perturbez le climat, vous perturbez le sol et vous pillez encore les ressources.
Michel Outemena nous appelle de Matadi dans le Bas-Congo. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous écoute, Michel.
Oui, je laisse que quelque chose et pose aussi une question.
Oui.
À l'invité. Pourquoi, lorsque on est par exemple en conflit, nous avons vu d'une manière pratique, nous avons vu les Français, les militaires français qui ont été en Afghanistan. Ils étaient là, disciplinés, sans polluer l'environnement. Même pour les Américains. Et pourquoi seulement en Afrique? Nous, les Africains, les militaires, lorsqu'ils sont en conflit, et les conséquences, ils doivent détruire. Bon, en entendant la réponse, j'ajoute que nous aussi qui envoyons les militaires aller combattre, nous devons mettre ces militaires-là dans de bonnes conditions. Ils doivent manger, ils doivent boire, parce que s'ils ne sont pas à l'aise, ils vont s'en prendre à la population. Ils vont détruire, parce qu'on dit... Le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, quelqu'un qui combat doit être à l'aise, doit être bien payé. Parce que ses pensées doivent être posées. Pourquoi? Parce qu'il laisse sa famille, il laisse sa femme, il laisse ses enfants. Il est au combat. Et il ne se retrouve pas.
Alors Michel, quelle est votre question maintenant?
Ah oui, donc pour moi, qu'est-ce qui fait que d'autres qui sont en conflit sous notre ici sont disciplinés et les nôtres ici sont indisciplinés. Qu'est-ce qui fait ça?
Bien, merci. Ami Sifata, qui vous êtes à Kindou, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous.
Bonjour, on vous écoute.
Oui, je voudrais demander à l'invité, est-ce qu'il peut exister un mécanisme de protection de l'environnement pendant même la guerre? Parce que je ne pense pas qu'au Congo, les groupes ou les conflits armés prendront fin un jour au Congo. On dirait les groupes armés, les conflits armés, c'est une communication locale.
Merci. Professeur Nicolas.
Ok, merci Michel, une bonne question. En Afghanistan, il y a les Français, il y a les Américains qui ne détruisaient pas l'environnement. Parce qu'ils sont formés. Parce que quand vous allez à une guerre, vous avez une mission. Ne vous écartez pas de votre mission. C'est très important. Il est vrai qu'ils sont bien payés, ils sont bien issus. Mais ici au Congo, quel est le problème? Moi, j'imagine que c'est un problème, un, de recrutement de gens qui vont faire la guerre. Et deux, dès qu'ils font ils sont recrutés, il est important de les former. Après les avoir formés.
Les notions sur l'environnement.
Les notions militaires, mais aussi les notions sur l'environnement, le développement durable. Et il faut les conscientiser de ne pas détérioriser l'environnement, parce qu'après la guerre, ils vont avoir aussi les problèmes sur l'environnement. Ils risquent de vivre la famine. D'où la question de la conscientisation. Et il est vrai, quelqu'un qui est à guerre doit avoir une bonne morale. Je suppose les gens qui envoient les belligérants à guerre, que ce soit les gens qui sont dans tous les décans, ils doivent nourrir leur bataillon. Mais ils doivent bien payer les gens. Si quelque part ils n'ont pas bien payé, il est bien d'échanger. Ils doivent aménager les salaires. Quelqu'un ne peut pas travailler sans salaire.
Ça rejoint la question d'Amis qui veut dire quel mécanisme de protection de l'environnement pendant la guerre.
Pendant la guerre, les mécanismes...
Bien payer les combattants pour qu'ils ne s'en prennent pas à l'environnement, c'est ça?
Mais oui, parce que
c'est l'une des solutions.
L'une des solutions, c'est les remettre dans de bonnes conditions.
Okay.
Deuxième condition, il faut les sensibiliser sur la question de l'environnement. Il faut les... Autre la conscientisation et la sensibilisation, il faut les conscientiser qu'il ne faut pas aller détruire. En dehors de ça, il faut qu'ils respectent les droits Parce qu'il y a les instruments juridiques que les militaires ou les belligérants doivent respecter. Il y a les lois internationales qui ne peuvent pas détruire les éléments des écosystèmes, ils ne doivent pas déranger les animaux, ils doivent respecter la loi. Si les autres respectent la loi, le respect de la loi s'avère important aussi dans le pays.
Laurent Oussemé nous appelle de Mambasa en province orientale. Bonjour Laurent.
Bonjour Radio Kati, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kati qui nous captent en ce moment.
On vous écoute. Hein.
Oui, je venais de suivre votre émission et je suis très content et je félicite l'intervenant, le professeur, qui est en train de donner des éléments réels que nous sommes d'ailleurs en train de vivre présentement pendant la guerre ici chez nous à Mambasa, puisque depuis 2-3 jours, la population du centre des îles a été chassé par les leaders de Morgan et maintenant nous sommes rentrés et nous nous sommes réfugiés dans une zone de gestion communautaire des ressources naturelles qui a été instituée par la Wildlife Conservation Society, WCS, dans le cadre de Use Land Plan. Là, c'est la population s'est concentrée dans cette région et où on a beaucoup de diversité biologique et il y a des bradages de ces valeurs qui sont en train de se faire même dans la RFO et là, dans le GSRN Bakwanza, on est en train de couper les arbres, on est en train de tuer les animaux pour se nourrir. Ça, ce sont les conséquences de la guerre comme l'intervenant venait de le dire. Et j'ai une question maintenant à poser puisqu'il a parlé aussi des animaux qui sont tués, les okapis. Nous n'en avons plus en captivité ici en territoire de Mambasa et en RDC, on n'en a plus, c'est ça la précision que je voudrais donner à tous les auditeurs.
Laurent, vous voulez dire que tous les okapis ont été décimés?
Oui, décimés, il n'y en a plus. Vraiment, en RDC, on n'a plus des okapis qui vivent dans une situation presque naturelle, puisqu'ils se nourrissaient des feuilles, qu'ils se nourrissaient même dans la forêt, mais on en a plus. C'est une valeur culturelle, économique, écologique et une valeur touristique que nous venons de perdre dans notre territoire et dans l'ensemble de la République démocratique du Congo en général. Et ma question maintenant était celle-ci à notre invité. Quelles peuvent être les modalités de restauration de l'environnement pendant qu'il est déjà détruit par les guerres et consorts? C'est ça ma question.
Merci Laurent. Alors, professeur Nicolas, comment restaurer l'environnement après une destruction?
Okay, regrettable du fait de voir que les okapis sont définis. Moi, je pense que c'est en voie de...
Oui.
Parce que c'est ça. Peut-être que vous le voyez nombreux, vous ne le voyez plus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en fait accompagner la reconstruction. Il faut participer, à l'inventaire des espèces. Quelles sont les espèces? D'où la nécessité de faire des évaluations environnementales après la guerre. Il faut contribuer à la priorisation des actions de la reconstruction dans notre pays. Il faut, qu'on arrête la guerre. Ce n'est pas bon parce que ce sont des hommes qui sont en train de mourir. Deux, après avoir fait, il faut qu'on puisse faire la comptabilité environnementale pour savoir qu'est-ce qui est perturbé, et en plus, il faut commencer à réhabiliter à partir des projets, faire des différents projets de réhabilitation des écosystèmes, des projets de réhabilitation de la forêt, et il faut aussi que la population se prenne en charge pour savoir, dès que vous savez, ce qui est important, c'est les Congolais qui s'arrangent pour tuer un autre Congolais, pour détruire les histoires, ou bien ce sont les belligérants étrangers qui arrivent, mais il faut que nous puissions nous prendre en charge, que vous savez qu'il y a un étranger qui fait commencer quelque chose, il faut les dénoncer tout de suite, pour qu'on les mette hors d'état de nuire, c'est très important. Il faut se prendre en charge en auto-vigilance et une certaine protection naturelle. Et il faut aussi que la communauté internationale, comme nationale, laisse les armes et ils fabriquent leurs armes, qu'ils les gardent dans leur pays. Nous, nous sommes habitués à faire la paix autour de l'arbre.
Merci, professeur Nicolas Chokou, je rappelle que vous êtes expert en environnement, c'est que après la guerre, ce que j'ai retenu, il faut faire l'évaluation de ce qui a été détruit et élaborer des projets pour restaurer, pour réhabiliter ces espèces qui ont été anéanties. Alors, avant de terminer, peut-être un contact, comment peut-on entrer en contact avec vous?
Pour le moment, nous avons mis sur pied les projets d'études d'évaluation en matière de conflits armés à la République démocratique du Congo, qui regroupe déjà quelques institutions dont nous sommes en train de coordonner, c'est pour arriver à faire ces étapes-là, ces études-là. Mais ceux qui veulent se joindre à cette étude, parce que c'est très important, ils peuvent nous contacter au numéro 082 027 26 47. Nous avons besoin de ressources humaines, nous avons besoin d'appui pour que nous puissions faire ces études et arriver à faire les états des lieux clairs des différents problèmes, des enjeux environnementaux de notre pays.
Eh bien, 082 027 26 47. Okay, c'est cela.
C'est ça, merci.
Bien, professeur Nicolas Chokou, merci. Vous êtes expert en environnement. Merci et à la prochaine.
Mais c'est à moi de vous remercier.